pour ce format-là, on choisit entre deux distances. On a trois distances en tout. On a 500 mètres, c'est pour les sprinteurs. 1000 mètres, c'est une distance intermédiaire. Et enfin, 1500 mètres, c'est la longue distance. Moi, je suis plutôt sur le 1500 mètres. C'est ma spé. Et ensuite, en plus de ça, on rajoute trois relais. Donc, relais féminin, relais masculin et relais mixte. Du coup, c'est 13 tours et demi. 500 mètres, c'est 4 tours et demi. 1000 mètres, c'est 9 tours. Et donc, 1500 mètres, c'est 13 tours et demi. Il y a un patineur sur la piste et l'autre patineur qui est à l'intérieur va se lancer et en fait, on va lui transmettre le relais par une poussée. Donc, en fait, on va le pousser au niveau des fesses pour lui donner toute notre vitesse. Donc, c'est assez impressionnant, surtout quand c'est les garçons qui poussent les filles. Ils vont plus vite que nous, ils sont plus lourds que nous. On s'envole, franchement, on s'envole. Quand on rentre dans les phases finales, entre les courses, on n'a que 20 minutes pour récupérer. Par exemple, entre une demi-finale et une finale, on n'a que 20 minutes. Donc, comme je disais, je pense que c'est le mental qui fait la différence en fin de course.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Tiffany Vieux-Marchand. Bonjour Tiffany.
Bonjour.
Tiffany, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Oui, je m'appelle donc Tiffany Vieux-Marchand, j'ai 26 ans et je fais du patinage de vitesse sur courte piste, donc ça s'appelle du short track.
Et tu fais ça depuis combien de temps?
Depuis que j'ai 9 ans, donc ça fait un petit bout de temps maintenant.
Et ça commence comment du coup le patin? Est-ce que c'est la foire de Noël qui te met un peu sur la glace? Comment ça se passe?
Ben, je pense que c'est plus simple si je reprends l'histoire depuis le début. En fait, il se trouve que j'habitais dans un tout petit village du Doubs. Tout petit village puisqu'on n'est pas plus de 100 habitants. Et il se trouve que ma voisine pratiquait le short track à Chamonix quand elle était plus jeune. Elle a découvert qu'il y avait un club donc, de short track à Belfort. Et elle a décidé d'y emmener ses enfants pour qu'ils essayent, parce que c'est une pratique méconnue en France. Donc voilà, elle a décidé ça, elle nous a proposé à ma sœur jumelle et moi de les accompagner. On a accepté, et en fait c'est assez dingue parce qu'on n'était jamais rentré dans une patinoire, on n'était jamais monté sur la glace. Et donc on a enfilé des patins de vitesse et c'était parti. Voilà.
Et attends, parce que du coup, c'est, quand tu dis short track, peut-être, petite parenthèse rapide, ça veut dire que c'est une piste qui est courte par rapport à une autre qui est plus longue, j'imagine. C'est quoi la différence?
Ouais, exactement. Bah, nous, en fait, on est donc sur une courte piste. C'est dans des patinoires lambda qu'on peut trouver un peu partout. L'anneau, il fait 111 mètres, alors que la longue track, c'est sur un anneau de 400 mètres. Donc, c'est un anneau de 400 mètres en glace.
Et le 111, il est mesuré quoi? Au niveau des plots que vous posez ou enfin du cercle intérieur?
Ouais, exactement. C'est la piste avec les plots. On a 7 plots par virage et c'est ça.
Et du coup, 9 ans, tu te mets dessus, vous faites un tour et tu tombes amoureuse de ce truc-là, quoi.
On fait plusieurs tours. Ouais, c'est ça. On faisait la course avec les copains, copines. C'était assez incroyable. Et puis... ouais, on n'était jamais monté sur la glace, donc c'est des nouvelles sensations. Sensations de glisse, on se met 2-3 boîtes, enfin, c'est un peu drôle, on tombe, on se fait pas mal. Enfin, c'était un tout. Et puis, ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Belfort se situe à 1 heure de chez mes parents. Donc en fait, mes parents ont dû faire les allers-retours pendant je ne sais plus combien d'années, 3 fois par semaine pour qu'on puisse donc aller sur la glace. Et ouais, c'est ça, c'était fou, c'était top et on a continué.
Et donc tu commences à 9 ans, c'est quoi le rythme à l'époque du coup si tu t'inscris en tant que membre du club?
C'est un loisir, donc c'est ça, trois fois par semaine, une heure et demie sur la glace. Puis c'était juste des compétitions si on voulait. Nous, on a tout de suite, avec ma sœur, on a tout de suite voulu en faire. Dès la première année, il me semble, je me souviens plus très bien, mais on a vadrouillé un peu partout dans la France parce qu'il n'y a pas énormément de clubs. Donc ça, c'était bien. On était avec nos copains, copines, à vadrouiller partout, faire des compètes. D'ailleurs, j'étais tout le temps super stressée. Avec le recul, je comprends pas trop parce que j'étais super nulle, mais en tout cas, c'était bien.
Et tu commences quand les compétitions ? Du coup, tout de suite à 9 ans, c'est des ça, compétitions ouais. Juniors ou je sais pas comment on prononce ça, mais...
Oui, si, c'est ça. C'est les compétitions juniors par catégorie. Puis c'était un niveau national dans un premier temps, puisqu'à l'âge de 9 ans, je pense que c'est un peu partout pareil. Et après, quand on a commencé à être un peu plus vieille, on a commencé à faire des compétitions à l'étranger, mais en Europe.
Et ça représente quoi, du coup, une semaine type, quand tu commences à changer de niveau, quand tu dis que tu commences à passer à un niveau plus élevé ? Est-ce que tu faisais du sport-études, du coup, à ce moment-là ?
Ben, en fait, donc j'ai commencé, comme on disait, à 9 ans. Ensuite, à l'âge de 16 ans, à l'entrée au lycée, on a décidé de partir à Belfort faire nos études, donc pour nous rapprocher de la patinoire, parce que sinon, on ne serait pas du tout allé à Belfort. Mais là, c'était vraiment un choix. On voulait continuer de patiner, donc on est allé dans ce lycée à Belfort. On a fait une année et en fait, en 2010, il y avait des sélections à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, pour intégrer le Pôle France. Donc on a décidé de se présenter à ces sélections. On a été toutes les deux prises et du coup, ben là, changement radical de vie. C'était donc dans un sport-études, là, à Font-Romeu. Il y a un lycée sport-études. Collège et lycée sport-études, le cadre est idéal, que ce soit en tant que collégienne, lycéenne, ou même après, c'est vraiment parfait. Et du coup, la semaine type, c'est on a nos cours, donc moi j'ai fait tout mon lycée ici, on se lève assez tôt, on est à l'internat toute l'année, donc on rentre pas les week-ends chez nos parents parce que c'est beaucoup trop loin. On a entraînement le matin, ensuite on a cours, on a de nouveau cours l'après-midi et on a de nouveau entraînement le soir. Et c'est ça tous les jours.
Et c'est l'entraînement qui dure quoi ? Une heure et demie ?
Quand on est au lycée, du coup, c'est entre une heure et demie et deux heures.
Ouais. Ça en fait du temps passé sur la glace.
C'est ça. Et après, donc, on change encore de rythme quand on sort du lycée. Parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le lycée maintenant.
Et ça se passe comment du coup, une fois que tu as quitté le lycée, tu fais ça toute la semaine, toute la journée ?
C'est ça, exactement. Je suis quand même étudiante à côté de ça, mais je fais mes études à distance. Donc là par contre, je m'entraîne à peu près 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi. C'est des journées complètes, surtout que... C'est pas que de l'entraînement. On doit préparer notre matériel, nous échauffer, faire l'entraînement, faire la récupération. On a beaucoup de rendez-vous, que ce soit avec nutritionnistes, prépa mentaux. Enfin, c'est vraiment... Puis avec les kinés, c'est vraiment des journées vraiment complètes. Et très intenses.
Et alors, tu peux me faire un petit parenthèse sur comment fonctionne un championnat, ça représente quoi ? Tu fais X tours, tu fais ça X fois, comment ça marche ?
Tu veux dire sur les compétitions ?
Ouais.
Bon, en fait, il faut savoir que dans une saison, nous on a 6 Coupes du Monde, un championnat d'Europe, un championnat du monde, et donc les Jeux en fonction de l'année dans laquelle on se trouve. Pour les Coupes du Monde, on a 2 Coupes du Monde en Amérique, sur le continent américain, 2 Coupes du Monde en Asie et 2 Coupes du Monde en Europe. Pour ce format-là, on choisit entre 2 distances. On a 3 distances en tout. On a 500 mètres, c'est pour les sprinteurs. 1000 mètres, c'est une distance intermédiaire. Et enfin, 1500 mètres, c'est la longue distance. Moi, je suis plutôt sur le 1500 mètres. C'est ma spé. Et ensuite, en plus de ça, on rajoute 3 relais. Donc, relais féminin, relais masculin et relais mixte. Et donc, on court 2 distances qu'on choisit, plus les relais. Donc, c'est pareil, c'est des grosses, grosses journées de compète. Pour les championnats, c'est un peu différent, quoique c'est en train de changer cette année. Mais normalement, sur les championnats, avant cette année, on faisait toutes les distances. Donc, c'est un peu un enfin c'est un vrai privilège d'être aligné en individuel, parce que on sait qu'on va faire toutes les distances. Et donc ouais, c'est ça.
Et quand tu dis 1500 mètres, si je fais le calcul rapide, t'es à 111 mètres de tour, ça fait
du
quoi?
Du coup,
ça
c'est
fait,
13 tours et demi. 500 mètres, c'est 4 tours et demi. 1000 mètres, c'est 9 tours. Et donc, 1500 mètres, c'est 13 tours et demi.
Okay.
Pour les relais masculins, c'est 5000 mètres. Du coup, c'est par relais de 4. Chez les filles, c'est par relais de 4 aussi, et c'est 3000 mètres. Et pour relais mixte, c'est 2 filles, 2 gars, et 2000 mètres.
Ok. Et vous vous passez comme sur une piste, non?
Non, pas du tout. non, pas du tout. En fait, je pense que c'est plus parlant de voir des vidéos que ce que je vais expliquer. Mais bon, c'est pas grave. Ça permettra peut-être aux gens d'aller voir ce que c'est. Je sais pas. En fait, donc il y a une personne sur la piste. Il y a énormément de monde déjà sur la glace, parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 équipes de 4 patineurs. Donc il y a tout ça, et il y a donc un patineur sur la piste, et l'autre patineur qui est à l'intérieur va se lancer, et en fait on va lui transmettre le relais par une poussée. Donc en fait on va le pousser au niveau des fesses pour lui donner toute notre vitesse. Donc c'est assez impressionnant, surtout quand c'est les garçons qui poussent les filles. Ils vont plus vite que nous, ils sont plus lourds que nous, on s'envole, franchement on s'envole.
Ils donnent l'impulsion, et derrière ils arrêtent de patiner?
Ouais, c'est ça. Mais en fait, ils se laissent patiner à l'extérieur, et ensuite ils rentrent à l'intérieur de la piste en attendant leur tour à nouveau.
Et c'est à chaque tour ou c'est...
C'est tous les tours et demi.
Ok, donc en vous fait, êtes tous les tours et demi.
C'est ça. Mais ça va vraiment super vite, c'est hyper impressionnant. Enfin, moi j'adore regarder le relais et j'adore le pratiquer, parce que c'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Il y a beaucoup de monde sur la glace, ça part dans tous les sens, il y a des dépassements dans tous les sens. Il peut avoir beaucoup de chutes, parce que forcément, il y a plus de monde sur la glace. Ouais, c'est fou.
Donc, si je comprends bien, il y en a un qui part, il fait un tour et demi, il pousse le suivant, qui fait un tour et demi, qui repousse le suivant, qui fait un tour et demi.
C'est ça.
Et vous êtes quatre, du coup, à faire ça, et ensuite, ça fait déjà 2000 mètres ou c'est...
Bah, du coup, on a, je parle pour les filles, les deux premières, elles ont 5 passages de un tour et demi, et les deux d'après en 4 passages.
Ok. Ah, c'est canon.
Ouais.
Et alors, les premières compétitions internationales, tu commences quand?
Bah, alors, en fait, j'ai fait mes premiers mondes juniors en 2010.
Ouais.
Donc ça, c'est des compétitions de référence. Après, j'ai fait des compétitions internationales avant de rentrer au Pôle France, mais j'avais pas un beau niveau. Enfin, j'avais pas du tout un bon niveau. Il y a eu vraiment un pic de performance à partir du moment où j'ai intégré l'équipe.
Et ça, c'était en 2013 ?
2010. Du coup, ça a commencé. En fait, j'ai intégré le Pôle France en 2010, et depuis, j'ai jamais cessé de progresser.
C'est quoi, du coup, les résultats que tu as fait typiquement sur des championnats ou des Coupes du Monde, qu'on comprenne un peu ?
En fait, en 2018, j'ai participé à mes premiers Jeux Olympiques.
Canon.
À Pyeongchang, en Corée du Sud. C'était vraiment une expérience incroyable, vraiment. On était 4 patineurs français, donc 2 filles, 2 gars. Et j'étais super fière de représenter la France. Donc c'était vraiment génial. Un mois après, j'ai été finaliste au championnat du monde à Montréal.
Canon.
Donc c'était en 2018, en mars 2018. En 2019, j'ai décroché ma première médaille individuelle en devenant vice-championne d'Europe. Et enfin, cette année, j'ai décroché aussi ma première médaille en Coupe du Monde, une médaille de bronze, pardon, sur 1500 mètres.
Putain, on est quand même pas loin, hein. Tu vises l'or les prochaines fois, là? Comment, c'est quoi les échéances?
Ben, en fait, y a un communiqué de notre fédération internationale qui vient de tomber, qui dit que nos premières Coupes du Monde sont annulées, donc... ça m'a un peu un coup, mais c'est pas grave. Enfin, on a les Jeux dans un an et demi à Pékin, normalement. Donc, quoi qu'il en soit, on s'entraîne jamais pour rien. Donc, on va garder le cap, et puis on va voir si les Coupes du Monde en Asie seront maintenues.
Tu dis beaucoup « on ». Est-ce que ta sœur est restée à ce niveau-là aussi?
Non, malheureusement, elle n'est pas restée. Elle a fait une seule année en Pôle France, donc dans l'équipe junior. Après ça, elle a arrêté. Ça a été très dur pour nous deux parce qu'en fait, on n'avait jamais été séparés. Mais je pense que ça nous a rendues aussi plus fortes. Et puis, c'est pas parce qu'on vit à 1000 km l'une de l'autre qu'on n'est pas... Enfin, je veux dire, on a gardé cette relation fusionnelle et on s'appelle tous les jours. Donc, voilà. J'ai tendance plutôt à dire « on » pour l'équipe en général, pour l'équipe de France. Ouais.
Et l'équipe de France, tu m'as dit, il y a 4 qui sont partis aux Jeux Olympiques. Ça représente combien de personnes en tout dans l'équipe de France ?
Mais en fait, là, il y a eu énormément de changements, parce que les anciens sont partis, les nouveaux sont en train d'arriver, donc il y a beaucoup de changements. J'étais avec Sébastien Lepape, qui est toujours là, Thibaut Fauconnet et Véronique Piron, mais Véronique a aussi arrêté. Et du coup, on était à peu près une vingtaine dans l'équipe à ce moment-là.
Et ça restera une vingtaine globalement le groupe pour la suite, ou est-ce que, enfin toi, est-ce que si t'as un qui part et d'autres qui arrivent, est-ce que ça reste une vingtaine en tout ou pas?
Ah non, pas du tout. Ça peut changer d'une année à l'autre. Là, par exemple, je pense qu'on est plutôt une quinzaine avec les juniors, peut-être même une vingtaine, je sais pas. Je me rends pas trop compte parce qu'il va y avoir de nouvelles personnes qui vont arriver cette année. Mais non, ça change d'année en année. Et nous, on attend beaucoup de relèves en tout cas.
Et tu disais que tu as fait donc vice-championne l'année dernière, bronze cette année. Qu'est-ce que ça fait d'être sur le podium comme ça? C'est quoi le sentiment que tu as quand tu montes?
Énormément de fierté. Et puis, on se dit que ça paye. Enfin, moi, je pars du principe qu'il faut beaucoup s'entraîner, qu'il ne faut jamais perdre espoir et que notre tour viendra. Et en 2019, quand j'ai décroché ma première médaille au championnat d'Europe, je sortais de 2 années très difficiles. Vraiment très difficile, et du coup, je me dis, c'est ça, ça finit par arriver.
Ça paye, et puis du coup, ça va encore payer. Hein.
On n'est ouais,
pas à l'abri de prochains succès.
C'est mon objectif, oui.
Tu disais que du coup, ça a beaucoup évolué, qu'aujourd'hui, tu t'entraînes quand même 4 heures matin, 4 heures après-midi. Tu fais que de la glace, donc c'est toute la semaine sur la glace?
Non, pas du tout. En fait, on patine... on est beaucoup sur la glace, mais on fait pas que ça. On patine à peu près 2 fois par jour sur la glace, donc matin et après-midi, mais c'est couplé. Donc par exemple, ce matin, on avait une activation d'une heure, ensuite on a glace pendant 1h30, ensuite on a muscu, mais petite muscu, parce que c'est à peu près 40 minutes, et ça c'est de nouveau couplé avec du RSH, c'est des répétitions de sprint en hypoxie. Donc en fait, on faisait des répétitions dans une salle hypoxie à 3500 mètres d'altitude. Donc c'est hyper dur. Hein. Moi, je conseille pas, j'aime pas du tout. C'est super dur. Et ensuite, donc là, on a notre temps de pause. Et l'après-midi, de nouveau sur la glace. Et ça peut être couplé avec 1h30 de vélo en aérobie à l'extérieur.
Ah oui. Et tout ça étant basé où, redis-moi ?
À Font-Romeu. C'est okay. Dans les Pyrénées-Orientales.
Okay.
D'ailleurs, si tu connais pas, c'est un endroit magnifique. c'est vraiment génial. Je me fais beaucoup chambrer parce que je vends Font-Romeu, mais ouais, c'est parce que c'est vraiment bien.
Ah, c'est canon. Bah, écoute, je passerai à l'occasion. Nous, on est plutôt Pyrénées-Occidentales, j'avoue. Donc, je connais plutôt cette partie-là, mais à l'occasion, avec grand plaisir pour passer voir. Tu effectivement fais beaucoup d'activités un peu diverses dans ton entraînement. Question bête, mais question quand même. Pourquoi vous tournez toujours à gauche sur les anneaux?
Je sais pas, c'est comme ça, c'est comme l'athlétisme. Enfin, on...
Et ça a toujours été comme ça, et vous avez jamais fait des courses dans lesquelles vous changez d'autre sens?
Non, c'est comme ça, point. Des fois, à l'entraînement, on tourne dans l'autre sens. Mais ça n'a rien à voir. On est très mauvais dans l'autre sens. C'est juste qu'on fait des exercices spécifiques dans l'autre sens, mais non. Ça sera toujours comme ça.
Et t'as pas des muscles du coup qui sont développés, qui sont un peu plus forts sur les côtés de jambes qui correspondent aux côtés de la piste?
Mais en fait, on nous pose souvent cette question et on aurait tendance à dire oui, mais en fait, non. Non. On a un équilibre entre les deux jambes, donc... Nos jambes sont musclées de la même manière. Enfin, il y a un léger écart, mais c'est pas violent.
C'est des muscles qui sont sollicités un peu comme ceux du vélo, non, finalement. C'est quand même globalement du muscle de cuisse, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. On bosse beaucoup sur quadri, donc c'est beaucoup les jambes qui prennent. On travaille pas vraiment le haut du corps.
Bon, et alors en termes de mental, comment tu fais pour tenir, tu m'as dit quoi, 13 tours et demi?
Ouais, ouais.
Comment tu fais pour tenir 13 tours et demi avec parfois des millièmes de secondes de différence avec ta voisine de devant?
Ouais, c'est ça. Moi, je pars du principe qu'en fin de course, c'est le mental aussi qui fait la différence. Surtout que quand on rentre dans les phases finales, entre les courses, on n'a que 20 minutes pour récupérer. Par exemple, entre une demi-finale et une finale, on n'a que 20 minutes. Donc, c'est vraiment court. Il faut pouvoir récupérer au maximum dans un temps court aussi. Et du coup, donc, comme je disais, je pense que c'est le mental qui fait la différence en fin de course. Moi, je vois une prépa mentale depuis maintenant 2 ans qui m'a changé la vie. Enfin, depuis 3 ans maintenant, ouais. Qui m'a vraiment changé la vie. On a fait énormément de boulot ensemble et je pense que c'est essentiel pour tout sportif de haut niveau.
Mais elle te fait quoi? C'est des exercices d'entraînement à tenir sur le long terme? Est-ce que c'est plutôt de maîtriser finalement tes émotions? C'est quoi le...
Bon, en fait, c'est un tout. C'est maîtriser ses émotions, des exercices de relaxation, savoir comment s'y prendre à l'approche d'une compétition importante. Se fixer les bons objectifs, savoir pourquoi on le fait, c'est vraiment quelque chose de global et c'est ça qui fait la différence aussi. C'est pas, j'ai déjà travaillé auparavant avec d'autres prep mentales, mais c'était pas comme avec Christelle, c'était pas comme avec elle.
Et tu disais que de temps en temps tu tombes, ça t'est arrivé de tomber, tu poses toi aussi?
Ah oui. Après par chance, moi je me suis jamais blessée. Enfin, il y a beaucoup de fractures qui se font en short track. J'ai la chance de m'être jamais blessée. Après, oui, je suis tombée énormément de fois. On peut se faire mal, bien entendu, mais comme dans tous les sports.
Et tu disais effectivement qu'il fallait entretenir également ton matériel. On pourrait faire une petite pause rapide sur ce que ça représente, quoi, un matériel du coup, d'une patineuse comme toi.
En fait, on a notre bottine qui est moulée à nos pieds. Mouler vraiment au millimètre près à nos pieds. Donc, je pourrais pas prêter mes patins à qui que ce soit. Ensuite, en dessous de notre bottine, on a donc des lames qui font 17... Enfin, moi, mes lames font 17 cm pouces. Donc, elles sont très grandes. Et on doit les affûter. C'est nous qui affûtons nos lames. Donc, on a des pierres en diamant. C'est des pierres diamant. Et on affûte à peu près nos lames quasiment avant chaque entraînement. Ça prend à peu près entre 10 et 15 minutes en fonction de savoir si notre affûtage était abîmé ou pas avant. Et on a des réglages très, très précis sur nos lames. Et ça dépend vraiment de chaque patineur. Et ça, vraiment, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a des patineurs qui le font eux-mêmes, d'autres non. Parce qu'on peut voir aussi ça avec nos coachs. Ça prend du temps, de l'énergie, et puis on sent vraiment la différence quand ça va ou quand ça va pas. Et je pense que c'est difficile d'expliquer les sensations qu'on a à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de short track à haut niveau. Parce que un petit point sur la lame va faire une énorme différence sur notre ressenti. Donc ça, c'est vraiment... franchement, c'est super pénible à la longue quand on n'arrive pas à trouver les bons réglages. C'est chiant.
J'imagine... Qu'une fois que tu as fait cette partie de course à haute vitesse, en l'occurrence sur une patinoire, et tu ne retournes plus jamais faire du patin à glace avec tes potes le dimanche, quoi.
Non. Je pense que j'y suis déjà allée, je ne sais pas, 2-3 fois faire du patin comme ça, mais j'aime pas du tout. Et puis non, j'y vais pas parce que contrairement aux apparences, moi, j'aime pas du tout le froid. Donc c'est pas mon petit plaisir d'aller me mettre dans une patinoire si c'est pas pour un entraînement ou pour une compète.
Et en termes de combi, vous êtes équipé sur un truc qui va respirer un peu parce que vous allez quand même faire un sacré effort et en même temps il fait froid, comment ça se passe?
Ah non, en fait nos combines elles sont Elles sont vraiment toutes légères, parce qu'en fait, avant, on avait des combines un peu plus lourdes, mais il faut les traîner, donc c'est un peu plus compliqué. Là, elles sont toutes légères et anti-coupure. Parce que forcément, quand on tombe à plusieurs, il y a les lames. Les lames sont super tranchantes. Je pense que ouais, c'est nécessaire. Enfin, je pense pas, je sais que c'est nécessaire.
C'est quoi les plus gros accidents que tu as pu voir, toi?
Ah bah j'en ai vu plein, hein. Que ce soit à l'entraînement comme en compétition. J'ai vu énormément de fractures, fractures ouvertes. Souvent, c'est les fractures du péroné. C'est horrible, franchement, c'est horrible. J'ai vu des coupures très profondes. Enfin, je vais peut-être arrêter de parler de ça. Je me suis coupé un doigt, moi, mais c'était pas sur la glace. C'était un truc un peu tout con. C'était une Coupe du Monde. Je me préparais. Et j'étais trop contente parce qu'en fait, j'étais passée donc en Coupe du Monde. On dit qu'on rentre en Coupe du Monde quand on est dans les phases quart, demi-finale. Avant, ça compte pas. Et donc, je rentrais donc pour la première fois en Coupe du Monde. J'étais toute excitée, toute contente. J'allais monter sur la glace, 10 minutes plus tard. Et je me suis dépêchée d'essuyer mes patins. Sauf qu'en fait, mon chiffon a glissé et mon doigt a glissé sur toute la lame. Sauf que ben mes patins étaient super bien affûtés, surtout que je me mets des notes pour me dire si c'est bien affûté ou pas. J'étais sur un 10/10, hein. Et donc c'était super profond, je me suis fait recoudre 3 points de suture. Sauf qu'en fait j'ai pas voulu me faire recoudre sur le moment parce que j'étais trop contente. J'ai dit à mon coach, non mais laisse-moi monter sur la glace, laisse-moi faire ma course. Puis il m'a dit bon bah ok, il était un peu pris de court. Il m'a mis du scotch tout autour de mon doigt et je suis montée sur la glace comme ça. Ça allait pas du tout, enfin c'était trop profond. Je suis tombée pendant ma course, je me suis fait disqualifier. J'ai fait que de la merde, mais j'étais contente. Et puis ben après, je suis allée directement me faire recoudre le doigt et ça m'a fait trop mal. Voilà.
Mais ouais, si tu tombes, tu te fais disqualifier tout de suite ?
Non, pas du tout. C'est juste que c'était moi. J'ai poussé une adversaire et du coup on est tombés à deux. Non, mais ça arrive.
Ah,
ça arrive.
T'as pas le droit de pousser les gens ?
Non, pas du tout. Il faut pas avoir de contact. En fait, c'est un peu la règle du pas vu, pas pris. Mais il y a des vidéos un peu partout. Et puis, non, il faut éviter vraiment au maximum le contact. Parce qu'à la vitesse où on va, même une main posée sur quelqu'un, ça peut nous faire partir un peu dans tous les sens et puis ça peut provoquer des chutes.
La main que vous posez quand vous tournez comme ça, c'est un peu comme le genou d'un motard, c'est pour donner un peu un équilibre en tournant ?
Oui et non. En fait, ça dépend. Il y en a qui la mettent pour se rassurer, même s'ils ne la mettent pas au sol, ils n'en ont pas besoin. Et d'autres, oui, pour s'équilibrer. Et après, on est quand même vraiment incliné, donc ça aide quand même.
C'est quoi la vitesse ? Tu me disais, vous allez très vite. C'est quoi la vitesse globalement ?
Bon, en fait, au point le plus rapide sur le tracé, donc c'est en sortie de virage, les gars sont à 50 km/h à peu près.
Oui. Ça peut faire mal.
Ouais, ça va vite.
Et vous, en tant que femme, vous êtes à combien ?
Je dirais qu'on est en, 40, 45.
Et alors, tu mènes comment ta vie à côté si tu fais. Tous ces entraînements de sport, je suppose que tu fréquentes beaucoup l'équipe de France, mais est-ce que tu as d'autres... vous sortez un peu en semaine, vous êtes interdit d'alcool, c'est quoi le...
moi, non, je bois pas vraiment, parce que on évite les blessures, forcément. Puis même, on s'entraîne tellement qu'on n'a pas vraiment la tête à ça. Je côtoie pas vraiment les membres de l'équipe de France, à part... une ou deux individualités, mais on n'est pas vraiment proches. On est plus des collègues de travail, on va dire. Après, ça dépend, hein, ça dépend des gens du groupe. Et sinon, moi, je suis rentrée en master, là. Je rentre en master. Je fais mes études à distance, en master MEF, donc métier de l'enseignement, l'éducation et de la formation. Et je fais ça à distance. Puis sinon, je me repose. Je me repose, je dors, je cuisine, je fais du yoga. Puis voilà, quoi.
Tes parents, ils sont contents, ils sont fiers de toi, du coup, aujourd'hui ?
Ah oui, ils sont très fiers, ouais. Après, je suis pas la seule dans la famille. J'ai donc ma sœur jumelle, qui, elle, a ouvert une pâtisserie avec son copain. Donc,
canon.
Ouais, c'est cool aussi. J'ai un grand frère et un petit frère. Donc, il y a du beau monde, quoi.
Oh bah superbe. Tu disais qu'effectivement, tu avais une coach mentale. L'équipe de France, je suppose, te fait progresser au niveau de tes compétences et tes appétences de patineuse. C'est quoi la suite pour toi? Tu te donnes combien de temps encore à faire du patin?
En 2022, il y aura les Jeux à Pékin. Les Jeux d'hiver. Moi, je vise les Jeux d'hiver, donc là. Je vise une médaille au prochain jeu. Indive et relais. Et ensuite, je compte continuer. Enfin, je pense que je vais continuer jusqu'au jeu de 2026. Mais ça fait quand même longtemps que je fais ça. Je me fixe pas vraiment de date. Et je verrai année après année, après 2022. Je pense que j'ai d'autres projets aussi et j'ai pas envie de m'enfermer que dans un seul milieu. Je pense que c'est bien de couper aussi pour pouvoir aller voir autre chose. Parce que de beaucoup s'entraîner comme ça, c'est... Enfin, je veux dire, je pense que les gens, en général, hein, même mes amis, ils comprennent pas trop, mes amis qui font pas du sport, ils comprennent pas trop qu'on fait ça toute la journée, qu'au final, notre corps, c'est notre outil de travail, que c'est fatigant, mais vraiment, que c'est vraiment très fatigant, que ce soit mentalement comme physiquement. Moi, des fois, je me lève le matin ou par exemple, après une séance d'entraînement où c'était tellement dur, je vomis 3 fois parce que j'ai tout donné, je suis morte. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Je me dis, bah, c'est beau le sport de haut niveau, mais au final, les gens, en général, ils voient que le bon côté des choses. C'est ça, on peut voir juste les podiums, les belles médailles, je sais pas, la devanture en fait, et pas tout ce qui se cache derrière. Donc ouais, c'est ça. Je pense qu'il faudra au moins que je prenne une année off après les Jeux de Pékin.
Et tu veux même pas essayer le long track du coup, toi qui es spécialiste pour l'instant de ça?
Bah en fait, si, c'était un projet justement pour les prochains Jeux, ou même pour là. Il se trouve que l'année dernière, j'ai fait un stage aux États-Unis à Salt Lake City pendant 1 mois et demi. Et entre les 2 Coupes du Monde, j'y suis restée aussi 2 semaines. Ça m'a vraiment plu. Je me suis épanouie au possible avec l'équipe nationale américaine. Parce qu'en fait, mon copain est coach de l'équipe nationale américaine. Donc, c'était aussi l'occasion d'aller là-bas. C'était vraiment génial. Et eux, ils ont un complexe de malade. Et ils ont donc short track et long track autour. Et donc, j'ai pu aussi faire de la long track là-bas. Et c'était un projet, sauf qu'en France, on n'a pas d'anneau de longue piste. Donc, en fait, si je veux faire ça, il faut forcément que je parte à l'étranger. Et là c'est compliqué. Donc, notamment avec tout ce qui se passe en ce moment, avec la crise sanitaire, j'ai un peu laissé tomber ce projet parce que je ne pouvais pas.
T'as un petit défi perso à côté, des petits trucs que tu fais qui sont pas du tout du patin, dont tu veux parler?
Passer un temps, je courais beaucoup, je faisais beaucoup de trail, pour le plaisir, comme j'ai fait 1 ou 2 compètes et ça me plaît vraiment. Et en fait, j'aimerais bien faire des grosses compètes de trail. Enfin, pas des ultra trail, mais je m'étais inscrite le 10 mai à un 53 km, sauf qu'il a été annulé. Mais j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien passer une formation de yoga. Bon, après, ça reste aussi dans le sport, tout ça, mais ouais, j'ai pas mal de petits projets que... Enfin, en fait, j'ai tout le temps plein d'idées et j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai pas envie de rester enfermée dans un seul domaine toute ma vie. Bon, c'est un peu drôle que je dise ça, étant donné que j'ai fait que du short track jusqu'à présent, mais...
Bah, c'est déjà pas mal d'avoir les idées pour le faire. Après, il faut se donner les moyens, mais c'est clair que déjà, le carnet, en tout cas, a l'air bien plein. Tu as des gens en particulier que tu vas admirer ou qui vont t'inspirer, qui ne sont pas forcément des patineurs, d'ailleurs?
Bah justement, les gars qui courent. Enfin, je suis quand même énormément de gens en général, et je trouve ça dingue, quoi. Que ce soit Kylian Jornet, enfin, il y a énormément de monde, hein, mais tous ces gars-là, je trouve que ce milieu, moi, ça m'impressionne. Après, il n'y a pas que ça. Là, j'ai pas de nom qui me vient, Mais il y a tellement de personnes qui peuvent m'inspirer en général.
Que tu vas suivre sur les réseaux, j'imagine, ou que c'est où tu lis des bouquins, des trucs comme ça?
Bah, en fait, je lis énormément. Donc, ouais, surtout à travers les livres, mais aussi sur les réseaux, ouais.
Des petites questions pratiques, là. Si tu prends une semaine type, tu me parlais effectivement d'entraînement matin et après-midi, t'es une partie que tu vas apprécier, j'imagine. T'as forcément un truc dans la semaine qui va t'énerver. Si tu devais enlever un truc de ta semaine, t'enlèves quoi?
Un truc de ma semaine? Attends, mais il y a plein de trucs que j'aimerais bien enlever. Ah, en ce moment, non. Je sais pas, il y a plein de trucs que j'aimerais enlever. Je pense qu'en ce moment, c'est de me lever tôt. Ouais, je pense que c'est ça. Mais après, dès qu'il va faire quand même vraiment froid ici, j'aimerais bien enlever le froid qui nous torture les pieds. On sent plus nos doigts, on sent plus nos pieds. Ça aussi, ça en fait partie. Puis la muscu, j'aime pas trop la muscu. j'en ai besoin pour progresser, mais j'aime pas trop ça.
Si on trouve un moyen de faire une matière qui ressemble à de la glace non froide, ça t'arrangerait quoi?
Bah non, en fait, regarde, l'été, on est sur la glace et on n'a pas froid. Du coup, ça va. C'est juste, quand il fait moins 15 dehors, forcément, ça va se faire ressentir sur la glace.
C'est clair. Est-ce que le... Comment dire? Est-ce que le fait que tu fasses de la vitesse sur 13 tours et demi, ça devient pas un peu... tu veux faire mieux à chaque fois, sur un temps plus court, sur une vitesse plus stable, moins de frayeurs, tout ça, tout ça. Et du coup, ce dépassement de toi, ça devient pas un peu ta petite drogue du quotidien?
Je le dirais pas... Enfin, je le verrais pas comme ça. C'est juste que, par exemple, les sprinteurs, je pense que c'est leur cas. Quand, par exemple, on a l'entraînement, on fait des entraînements spécifiques où on doit faire un tour à bloc. L'objectif, par exemple, chez les gars, c'est de faire 7-9, 7.9 au tour. C'est vraiment leur objectif. Ça, c'est vraiment la vitesse ultime. Chez les filles, c'est, je sais pas, d'atteindre 8-5. Non, peut-être même plus vite. Mais moi, c'est pas ça qui m'anime. Parce qu'en fait, le short track... pour les sprinteurs, c'est important, c'est quand même important sur le 500 mètres d'aller vite. Mais le short track, le but, c'est de passer la ligne d'arrivée en premier. Donc, c'est du patinage de vitesse, oui, ça va vite aussi. Mais le but, c'est quand même de gérer sa course parce que c'est très stratégique. Et donc, de prendre les meilleures décisions au meilleur moment pour pouvoir passer la ligne d'arrivée en premier. Et donc, moi, ce qui me drogue, entre guillemets, c'est plutôt, j'en veux toujours plus, je veux toujours faire mieux. Donc, je sais pas, par exemple, je vais être à l'entraînement, on va avoir des gars devant nous, et les séries, donc on est en peloton, les séries sont rapides, je prends énormément de plaisir quand j'arrive à tenir plus de tours qu'un gars. Enfin, c'est vraiment le summum pour moi, parce que, c'est ça, on est des filles, du coup, de battre des gars, c'est encore plus satisfaisant, quoi. Donc, c'est ça. Toujours se dépasser chaque entraînement.
Tu disais à l'instant, ils visent 7-9 au tour et les filles 8-5, on parlait de secondes.
Ouais, exactement, ouais.
Donc les gens, ils font 8 secondes pour faire tout le tour?
Ouais.
C'est quand même pas beaucoup de temps.
ouais, non, mais c'est vraiment impressionnant. Et c'est encore plus impressionnant en vrai. Parce que sur les vidéos, ça a pas l'air comme ça, mais quand on est juste au bord de la balustrade ou juste à côté d'une personne sur la glace, c'est fou. Même nous, quand on voit les gars tourner, que ce soit en compète comme à l'entraînement, on lâche des petits « waouh ».
Bon, du coup, trois questions pour conclure effectivement notre échange. La première, c'est si tu devais conseiller à quelqu'un qui souhaite se lancer dedans, elle commence par quoi?
Par me contacter et je lui indiquerai le club le plus proche de sa maison. Et non, plus sérieusement, de foncer et d'y aller directement, que c'est un sport incroyable, méconnu malheureusement en France, mais un sport olympique, faut pas l'oublier, qui est incroyable, plein de sensations. C'est fou, il faut juste pas se poser de questions et se lancer, quel que soit l'âge.
Et comment on fait pour te suivre, du coup, Tiffany, sur les prochains épisodes, si on veut avoir l'occasion de suivre tes médailles sur les prochaines compétitions, etc. T'as des réseaux sociaux, des bouquins, des vidéos?
Ouais, donc j'ai Instagram sous le nom de Tiffany Huot Marchand. J'ai Facebook aussi. Et sinon, ben, c'est sur les sites de la Fédération française des sports de glace.
Et dernière question un peu philo, c'est... imagine, on a l'occasion de te renvoyer dans le temps et tu vas discuter à Tiffany qui a 9 ans et qui découvre la patinoire pour la première fois. Tu lui dis quoi?
Je lui dis, bah, t'as fait le bon choix parce que là, t'es nul, mais tu vas voir, ça va être une expérience incroyable tout au long de ta vie, très enrichissante. Puis bon, amuse-toi parce qu'on n'a qu'une seule vie.
Merci Tiffany pour ce temps avec moi, c'était canon d'avoir l'occasion de comprendre un peu ce sport et partager un peu ces petits moments avec toi. Et on a hâte de te voir au prochain JO et de savoir que t'es sur le podium et tant qu'on y est le plus haut possible. Et puis on te souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.